L'amour des premiers Quakers, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34-35 Quand vous portez, produisez ou faites venir beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes véritablement mes disciples vrais disciples. Jean 15, 8 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20 Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur ou la mansuétude, ou l'humilité, et la maîtrise de soi. Galates 5, 22 Je me souviens qu'en 1980, lorsque je cherchais dans l'histoire chrétienne des preuves de quelque chose de proche de ce qui est décrit dans la Bible, en amour et en puissance, je suis tombé sur un livre intitulé « Early Quaker Writings », qui n'était pas écrit par des Quakers, où il était mentionné que les premiers Quakers s'écrivaient des lettres les uns aux autres, exprimant leur amour réciproque, chose que les auteurs disaient unique dans l'ensemble de leurs recherches historiques. Cela a été pour moi le déclic pour creuser davantage les archives des premiers Quakers. Les lettres présentées ci-dessous reflètent l'amour chrétien que tous les frères et sœurs en Christ éprouvaient les uns pour les autres, un amour pur, net, saint, attestant leur véritable christianisme. Un amour qui n'est possible que lorsque l'esprit égoïste est mort sur la croix intérieure du renoncement à soi, pour être remplacé par l'esprit d'amour, comme le Christ l'avait demandé pour ses disciples et pour ceux qui suivraient leurs paroles et leurs enseignements, afin qu'ils soient remplis du même amour que le Père avait accordé à Jésus lui-même. « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. » Jean 17, 26 « Et le Christ déclara en outre que cet amour divin, surpassant tout ce qu'on voit dans le monde, serait la marque de ses disciples, afin que le monde les reconnaisse. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres. » et que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34-3 Quand on ajoute l'amour que les premiers Quakers avaient les uns pour les autres à leur persécution, et qu'on considère la puissance qu'ils manifestaient, leur authenticité ne fait aucun doute. Et il en va donc de même de leur promesse de perfection et de pureté, car ce qui apporte le salut montre les péchés de chacun, et la même chose les enlève. Concernant le soin des Quakers envers les amis au sein de la société, veuves, orphelins, malades, pauvres, emprisonnés, vieux, jeunes, tous étaient pris en charge par les Quakers. Si une assemblée était accablée par les dépenses liées à ces soins, d'autres assemblées contribuaient à leur venir en aide, dans tout le pays et même outre-mer. Leur sollicitude envers les leurs était si complète que l'on ne trouvait pas un mendiant parmi eux. Et lorsqu'un gouvernement local découvrait qu'il fournissait une assistance que le gouvernement était tenu de financer, le gouvernement abandonnait soudain son opposition à leurs réunions et assemblées. Dans le journal de George Fox, les juges et les officiers reconnurent que nous faisions leur travail, et ils s'en allaient paisiblement et avec affection, louant la pratique des amis. Concernant leurs soins envers tous les hommes, d'après le journal, parfois, il y avait 200 pauvres appartenant à d'autres gens non Quakers qui venaient attendre jusqu'à la fin de la réunion, car toute la région savait que nous nous réunissions au sujet des pauvres, et après la réunion, les amis envoyaient chez les boulangers chercher du pain, et donnaient à chacun de ces pauvres un pain, quel que fût leur nombre, car on nous avait enseigné à faire du bien à tous, mais surtout aux gens de la foi. Une courte lettre aux fidèles de George Fox à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. « Cher cœur, vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, et pas lui seulement, mais le Christ avec toute sa suite. Grande sera votre compensation, pour votre amour vous aurez des amours. » Cantique 7, 12. « Amor, une pluralité et une infinité d'amour, que nul autre que Dieu en Christ n'a donné. Le meilleur de ses proches sur la terre n'a qu'un amour unique, et il est heureux qu'ils aient de l'amour pour les frères. Mais le Christ a des amours pour le plus petit d'entre vous, le moindre des siens. Puissiez-vous, vous et tous les siens en qui il n'y a encore que des bourgeons, à peine des apparences visibles de grâce, être des vignes fécondes, croître des bourgeons aux fleurs, des fleurs à l'abondance de fruits, afin que lorsque le Seigneur se lèvera tôt pour visiter sa vie, vous puissiez le régaler de fruits agréables, nouveaux et anciens, vous pourrez le bénir pour ses amours des jours passés et des derniers jours, et être toujours pour lui un peuple humble, saint et reconnaissant, et pour ses frères un peuple consolateur. Glorifiez-vous dans votre robe blanche, vous portez les faveurs signalées du roi des rois et du seigneur des armées, le grand et puissant Jéhovah, amour, par lesquels je sais à qui vous appartenez parce que vous aimez les frères. George Fox, les lettres de James Pownell aux frères et sœurs à Londres, écrites depuis la prison où il mourut, étant le premier des 869 premiers Quakers à mourir en prison. Commentaire de l'éditeur du site, « Bien qu'il existe certainement d'autres écrits Quakers comparables, je n'en ai découvert aucun qui dépasse la beauté des mots, l'encouragement et surtout l'amour transmis dans cette lettre par James Pownell. À mes chers amis, frères et sœurs de la cité de Londres, À vous qui avez été transportés, mon amour s'écoule depuis la vie. Vous qui avez été transportés et renouvelés dans le cœur et l'esprit, être transporté, c'est être dans le royaume, vous qui êtes séparés et rachetés d'entre les enfants de ce monde, et des souillures et abominations dans lesquelles ils vivent. En vous sont établies les œuvres de la nouvelle création, où habite la justice. Vous êtes beaux au-dedans, et parés au-dedans, et décents au-dedans, et purifiés et lavés au-dedans par le précieux sang de l'agneau, avec lequel vous êtes crucifiés, qui êtes en lui, qui avez revêtu le vêtement de noces, et êtes admis à la table du Seigneur, et participé à la sainte union. Ô vous les bénis du Seigneur, vous les petits enfants du Très-Haut, qui demeurez dans la pureté et régnez dans la majesté, vous qui avez établi et dressé son trône dans vos cœurs. En vous est ma joie et mon grand plaisir. Oui, je me souviens de vous, quand vous étiez tendre et que vous poussiez, mais en attendant le Seigneur, vous avez renouvelé vos forces, et d'autant plus ma joie est accomplie en vous, et vous êtes devenus précieux à mes yeux. Vous êtes les Juifs intérieurs, de la circoncision du cœur, rachetés de parenté, de langue, de langage et de peuple, qui êtes venus à la Jérusalem céleste, pour y adorer le Père en esprit en vérité, vous qui l'a choisi pour porter sa sainte image, si fortement défigurée dans le monde et pour, en vous, exalter et glorifier son nom de sainteté parmi les païens et ceux qui ne le connaissent pas, en ce jour où il visite la terre avec jugement, avec miséricorde et avec une puissance abicaine abicdant mighty, afin de demain. Et vous êtes bénis, vous qui avez répondu à sa voix, vous chanterez et vous réjouirez quand d'autres pleureront, se lamenteront et hurleront, bien que vos parts à présent parmi eux soient souffrance, mépris, moquerie, dérision, médisance, insulte, persécution, coups et emprisonnement. Toutefois vous avez appris à tenir ces choses pour des richesses, vous qui connaissez le Consolateur au-dedans de vous, et votre Rédempteur vivant avec vous. Je me réjouis de toutes ces choses, y ayant maintenant part. Je ne vous suis pas inconnu, ma voix, vous la connaissez depuis longtemps. Oh, comme je languis de voir vos visages, mais en cela je suis retenu pour un temps. Ma vie est liée à beaucoup de vos cœurs, ce qui fait que je ne peux vous oublier, bien que mon corps soit maintenu dans des liens étroits, mais l'étroitesse sera brisée lorsqu'il aura parfait sa louange en eux, lui qui est mon seul gardien et soutien. Ô vous simple colombe, qui êtes assise sans tromperie dans votre bouche. Ô comme je suis ravi de votre amour, quand je vous contemple en esprit. Vous qui vous êtes livré à la mort, à la famine, à l'épée et au feu, et qui vous êtes patiemment soumis à la volonté du Père, et avez volontairement sacrifié vos convoitises et vos affections, votre foi vous est imputée à justice, et le Dieu en qui vous avez placé votre confiance et votre foi vous enrichira en lui, et vous donnera une substance incorruptible, et un héritage qui ne se flétrit jamais. Dans la mesure, vous pouvez sceller ce qui vous est écrit. Mais certains ont écouté l'esprit mauvais, qui a apporté de mauvaises nouvelles du bon pays, et ceux-là sont retournés en Égypte et se sont joints aux magiciens de là pour endurcir le cœur de Pharaon contre l'innocent, et ont rempli la bouche des païens de paroles blasphématoires. Mais qu'il continue, que celui qui est souillé se souille encore, car il vient bientôt, celui dont la récompense est avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mais toutes choses concourent au bien de vous qui demeurez dans la foi, que les vents qui soufflent ou les tempêtes qui viennent contre vous ne font pas chanceler, vous qui observez la main de la Providence en toutes ces choses, qui fait sortir le bien du mal pour vous, enfants de Dieu, qui demeurez dans la vérité et ne vous égarez pas. Ainsi comme vous avez goûté, senti, connu et fait l'expérience de lui, ainsi ayez confiance en lui et demeurez dans votre assurance ferme, qui a été créée en vous par sa parole, et soyez comme des lumières dans le monde obscur, tant par la parole que par la conduite, afin qu'en toute chose vous soyez approuvés par elle l'Esprit du Père dans vos consciences, comme des enfants fidèles et obéissants, chacun dans sa vocation où il a été appelé, afin que vous obteniez le prix là, à la fin de votre course. Oh, levez la tête et regardez vers le Père, et voyez comme il a été tendre envers vous, et comment son amour s'est montré tendre envers vous tout du long, lui qui ne vous a pas laissé sans instructeur ni père nourricier, qui ont veillé sur vous avec un soin affectueux. Dans beaucoup d'amour et de tendresse je suis porté vers vous, petit qui jaillissez de la racine de la vigne, parce que vous portez l'image de mon Père. Longtemps j'ai attendu pour vous écrire, et dernièrement j'ai eu une ouverture vous ayant vu dans l'esprit à votre sujet, ce qui m'a conduit à vous visiter par cette épître, car vous avez souvent été dans mon souvenir, bien que je ne puisse écrire. Et maintenant vous devez me lire dans cet amour que la langue ne peut exprimer, et dans cette épître écrite dans vos cœurs, sans papier ni encre, par la parole immortelle de vie, et là vous connaîtrez mon nom. Ainsi le Seigneur du Tout-Puissant, le gardien d'Israël, vous couvre de son ombre et dans sa sainte présence vous garde pur et innocent, afin que vous manifestiez sa louange sur la terre, et que vous la fassiez resplendir sur la terre, et que vous brilliez comme fils et filles de Sion, à la protection bénie duquel je vous confie, et je me couche avec vous, moi qui souffre des liens extérieurs par la volonté des hommes, à cause de la semence innocente, mais qui suis en liberté avec les fidèles, moi qui suis appelé. James Pownell écrit. Ses mémoires sont disponibles sur ce site. La force de ses écrits témoigne non seulement de son amour, mais aussi de son évidente formation par le Maître Christ. Lettre d'Isaac Pennington. Cher ami, j'ai toujours eu de l'amour pour vous, et une profonde conscience de l'œuvre sérieuse de Dieu sur votre cœur, et des désirs droits de votre âme après lui. Et que le Seigneur vous ait encore conservé en vie, au milieu d'une si grande et languissante faiblesse, est merveilleux à mes yeux, et je l'espère, tant à quelque honneur pour son nom, et à votre bien. Je me suis souvent enquis de vous ces derniers temps, et j'ai été heureux d'apprendre ce que je cherchais, par une lettre de votre propre main. À sa lecture, dans le recueillement de mon cœur, j'ai senti l'amour s'élever vers vous, et un souffle vers le Seigneur pour vous, et oh ! Puissiez vous sentir pleinement et être unis à la semence de vie, la semence du royaume, dont notre Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, n'a pas dédaigné d'être le prédicateur. Oh mon cher ami, qu'aucune partie de votre vie ne demeure dans des notions au-dessus de la semence, mais que tout demeure dans la semence elle-même, dans votre attente du Seigneur pour ses éveils en vous, et dans votre ressenti de ses éveils. Oh qu'advient-il de la chair du moi, et de la justice propre quand cela vit dans le cœur. Ma religion, dont je bénis maintenant chaque jour mon Dieu, a commencé dans cette semence, que lorsque je la sentis pour la première fois, et la reconnus avec discernement comme venant du Seigneur, mon cri vers lui fut, « Oh, c'est cela que j'ai désiré et attendu, oh, unis mon âme à toi en cela pour toujours. » C'est le don de ton Fils venant de toi, la grâce de ton Fils, la vérité de ton Fils, la vie de ton Fils, l'esprit de ton Fils. Je ne désire rien de plus que d'être rendu rien en moi-même, afin que cela soit tout en moi. Et ce que je rencontre et atteste ici, ce que je sens que le Seigneur Jésus-Christ ait fait pour moi ici, nul ne le sait, ou ne peut peut-être le savoir, sinon ceux qui ont senti la puissance pure de l'Esprit de vie, et ont été conduits par elle dans la même sainte et bienheureuse expérience. Ah, le péché n'a aucune part ici dans cette semence bénie, mais il est exclu par la vie et la puissance plus forte que lui. Ici, le Christ est formé dans l'âme en vérité. Ici, les vêtements noirs de l'injustice, oui, et aussi de la justice présumée de l'homme sont arrachés, et la robe blanche est revêtue à la place. Ici, l'image sainte est produite dans le cœur, l'image du cher Fils, qui participe de la nature divine du Père. Ici, l'âme est nouvellement créée en Jésus-Christ. Ici, on ne rencontre aucune tromperie d'aucune sorte, mais seulement la vérité venant de Dieu, la vraie vie, la vraie lumière, la vertu, la puissance du Seigneur Jésus-Christ, telles qu'elles sont ressenties expérimentalement dans le cœur, et opérant là aussi efficacement que la puissance du péché l'a jamais fait, la victoire sur le péché et la mort. Puissiez-vous discerner cela chaque jour, et sentir cela croître en vous de plus en plus, et mourir à toute notion, même des choses célestes elles-mêmes, hors de cela afin que votre âme vive pleinement dans la vie, l'esprit et la puissance du Seigneur Jésus-Christ, et que rien d'autre que sa vie, son esprit et sa puissance vivent en vous, à la gloire de Dieu le Père, et pour la grande joie et l'allégresse de votre cœur en sa présence. Amen, votre ami, dans l'amour vrai et sincère de la semence céleste et éternelle. IP 13 jours du 12e mois, 1678 alors qu'il était en prison, Pennington écrivit cette lettre très humble et affectueuse à George Fox, son père spirituel, qu'il avait d'abord convaincu en prêchant à la célèbre assemblée annuelle chez John Crook dans le Bedfordshire à la Pentecôte, 1658. Cher G. F. Je sens la tendre miséricorde du Seigneur, et une certaine mesure de ce brisement, de cette crainte et de cette humilité que j'ai longtemps attendue et recherchée dans mes soupirs. Je sens l'unité avec le corps et la force qui en vient. Ô béni soit le Seigneur qui m'a rendu apte, m'a restauré et a fait remonter ma vie de la tombe. J'ai une haute estime et un amour cher pour vous, que le Seigneur a choisi, oint et honoré, ainsi que pour vos frères et compagnons de labeur dans l'œuvre du Seigneur. Et cher G. F. Je sollicite votre amour, je vous supplie de prier pour moi, dans la foi et l'assurance que le Seigneur vous entend, afin que je sois encore plus brisé, afin que je sois encore plus rempli de la crainte du Seigneur, afin que je sois encore plus pauvre et plus humble devant le Seigneur, et que je marche tous mes jours devant lui dans une humilité parfaite et une tendresse d'esprit. Cher G. F., vous pouvez sentir mes besoins et mes manques plus pleinement que mon propre cœur. Aidez-moi dans une tendre affection, afin que je sente l'établissement et la stabilité dans la vérité, et une séparation parfaite d'avec tout ce qui lui est contraire, et la domination dans le Seigneur sur tout cela. IP. Prison d'Aylesbury 15 du 5 mois, 1667, je vous implore de prier pour ma famille, afin que le nom du Seigneur y soit exalté et que sa vérité y prospère. Cher G. F., en vérité mon âme languit après le règne pur, plein et sans trouble de la vie en moi. Il y a beaucoup d'autres lettres remarquables d'Isaac Pennington sur ce site, cliquez ici. Extrait d'une lettre de John Bunyan à l'Assemblée de Cumberland. Oh! Mes chers amis, je me sens comme si je vous parlais des miséricordes du Seigneur, de ses bontés aimantes d'autrefois et de ses manières d'agir avec nous, et étant aussi sous le sentiment de notre état présent et de nos capacités auxquelles il nous a conduits, mes entrailles au-dedans de moi en sont comme fondues d'un saint amour et d'une tendre affection envers vous. et dans cet amour je vous envoie ces lignes, comme la salutation de mon âme en celui qui vit à jamais, et comme le signe de cet amour entier qui vit dans mon cœur envers vous, amour. Or, voici ce qui se tient sous mes yeux, la puissance du Christ, qui s'est manifestée si richement au commencement, et qui alors a œuvré à nous préparer pour être un peuple apte à faire sa volonté, et ainsi elle a œuvré à nous nettoyer, nous laver et nous sanctifier, afin que nous soyons des vases saints propres à son usage. Maintenant, étant préparés, la même puissance agit puissamment dans les fidèles, pour nous ajuster et nous équiper pour toute bonne œuvre, afin que nous soyons à la louange de sa grâce, lui qui nous a appelés. Et si nous sommes ainsi à sa louange, nous devons croître en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si nous croissons dans la connaissance de lui, comme nous l'avons connu pour nous sauver du péché et détruire le mauvais, et ainsi être notre sanctification et notre rédemption, de même nous devons attendre de le connaître comme étant fait par Dieu pour nous sagesse, afin qu'il soit notre sagesse, et que la source en nous en soit le don de sa sainte puissance dans nos cœurs. Et ainsi, comme elle a puissamment travaillé dans nos cœurs pour nous préparer, de même ce don sera senti travailler puissamment pour nous fournir la sagesse et nous rendre capables de toute bonne œuvre, et ainsi vous saurez qu'il est fait par Dieu sagesse pour vous. Car la sainte crainte de la puissance sur le cœur, ressentie en justice, conduit en sagesse celui ou celle qui parle. Cette même sainte crainte et ce saint effroi sur le cœur conduisent dans le silence celui qui, dans le silence, est assis dont la bouche ne s'ouvre pas, et ainsi il devient tranquille et Christ, votre tête qui est en l'homme et en la femme, est sagesse pour vous, et ainsi tous seront gardés à leur place, dans la mesure où vous demeurez soumis à celui qui est la tête, l'époux de la véritable épouse. Extrait d'une lettre de William Edmondson à Margaret Fox, écrite de Dublin, le 7 du 9 mois, 1672. Chère Margaret Fox, que j'aime, estime et honore dans la bienheureuse vérité immuable, où consiste notre préservation et notre bien-être éternel, et dans laquelle mon tendre amour et ma vie vous saluent. Et chère Margaret, ceci peut vous rendre compte de nos voyages en Amérique. Et à Long Island et Shelter Island, j'ai revu votre cher mari. Il allait très bien, et je ne l'avais pas vu depuis plusieurs années aussi sain et aussi joyeux, ce dont nous nous sommes tous réjouis. Ainsi, chère Margaret, avec mon véritable amour pour vous et les vôtres dans la vérité éternelle, je demeure votre véritable ami et frère. W.M. Edmondson de William Penn, fondateur de la Pennsylvanie, écrivant sur l'amour Quake, tiré de l'excellente introduction de William Penn au journal de George Fox, l'amour que les Quakes ont les uns pour les autres a suscité toutes sortes de remarques à leur sujet. Ils se réuniront, ils aideront et resteront soudés. Il est courant d'entendre certains dire « Regardez comme les Quakers s'aiment et prennent soin les uns des autres ». D'autres, moins modérés, diront « Les Quakers n'aiment qu'eux-mêmes ». Et si s'aimer, les uns les autres, avoir une communion intime en religion, et veiller constamment à se réunir pour adorer Dieu et s'entraider est une marque du christianisme primitif, ils l'avaient en abondance, béni soit le Seigneur. Mais ils aimaient aussi leurs ennemis, car le Christ a enseigné et enseigne d'aimer les ennemis. C'est ce qu'ils enseignaient et mettaient en pratique, car ils ne cherchèrent jamais vengeance pour les torts qu'on leur avait faits, et condamnèrent la vengeance comme provenant d'un esprit non chrétien. Ils pardonnaient librement, oui, ils aidaient et secouraient ceux qui avaient été cruels envers eux. Ils pardonnaient et aidaient, même quand ils avaient le pouvoir de se venger, on pourrait en révéler bien des exemples, s'efforçant par la patience de triompher de toute injustice et oppression, et prêchant cette doctrine comme chrétienne à suivre par d'autres. Alors que les Quakers ne cherchèrent jamais vengeance, le grand Dieu des cieux exerça souvent sa vengeance. Cliquez ici, extrait du témoignage de Thomas Elwood concernant Isaac Pennington. Je me sens pressé en mon esprit d'écrire aussi quelques lignes au sujet de ce cher ami défunt. À quoi, je l'avoue, je suis porté, et en quelque sorte engagé, par la double obligation de l'affection et de la reconnaissance. Je l'aimais et cet amour était entier, et je suis sûr qu'il était bien mérité, car il était réellement digne d'être aimé de tous, mais tout particulièrement de moi, envers qui il avait été abondamment bon, car au jour où il plut au Seigneur d'éveiller mon âme et de m'appeler hors des souillures du monde, tant pour ce qui est du culte que de la conduite, ce pourquoi je devins la risée de mon pays, l'objet du mépris et du dédain de mes amis et connaissances, et en quelque sorte un proscrit aussi exposé comme au monde à son changement, combien. Avec quelle affection me reçut-il, avec quel soin prit-il soin de moi, avec quelle tendresse et comme un père veilla-t-il sur moi, afin que je ne fusse pas ramené en arrière, ni en aucune manière trahi hors de la simplicité de la vérité telle que je l'avais reçue, et pourrais-je jamais oublier son amour, ou laisser s'effacer de mon esprit ses multiples bontés? Oh non, son souvenir m'est agréable, et je ne puis penser à lui sans délice. Car comme ami, je l'aimais vraiment, comme père car tel son soin de moi l'avait rendu pour moi, je le vénérais, comme ancien je l'honorais, et cela comme il le méritait fort bien d'un double honneur. Mon esprit était réellement uni au sien, oui, mon âme était liée et attachée à lui dans la sainte alliance de la vie, que la mort n'a pas pu dissoudre. Supportez-moi donc un peu, je vous en prie, qui que vous soyez, sous les yeux de qui ces lignes pourraient par hasard tomber, si je prends la liberté d'exprimer mon sentiment au sujet de cet ami bien-aimé, et si j'ai l'air quelque peu particulier, sachez que ma relation avec lui l'était. Vous pouvez lire le reste de ce beau témoignage, ainsi que le récit d'Isaac Pennington de ses premières expériences avec Christ, cliquez ici. Un amour si fort qu'ils se portèrent volontaires pour prendre la place de leur frère en prison, l'amour existant parmi les premiers amis était très fort. Lorsqu'un ami subissait un emprisonnement long ou rude, d'autres amis allaient voir les autorités et offraient de prendre sa place en prison et de payer toute amende nécessaire à sa libération. 149 Quick envoyèrent une lettre au Parlement, cliquez pour voir, offrant de remplacer leur frère souffrant en prison. C'est une offre remarquable d'amour et d'abnégation, disponible à la lecture sur ce site. Un épisode célèbre parmi ces nombreuses offres fut celle faite au Lord Protecteur Oliver Cromwell, prendre la place de George Fox en prison. L'un d'eux se rendit auprès du Lord Protecteur, Oliver Cromwell, et proposa d'être emprisonné à Dormsdale à la place de George Fox. Le protecteur, frappé par cet acte d'amitié, regarda autour de lui ses partisans en demandant « Lequel d'entre vous en ferait autant pour moi si j'étais dans la même situation ?» Et bien que Cromwell n'accepta pas l'offre de l'ami, disant qu'il ne pouvait le faire car cela était contraire à la loi, cette action d'amour s'imposa néanmoins puissamment à lui comme vérité. Ci-dessous se trouve la lettre de Humphrey Norton à George Fox, lui racontant l'offre, d'après le Cambridge Journal. Humphrey Norton à George Fox 1656 Cher George Fox, vous, dont la beauté et l'agrément des paroles ne peuvent être exprimés, je suis poussé à écrire ceci et à m'abandonner librement par l'amour de la semence, et par l'amour de la semence qui repose sur vous, pour placer devant vous ce message. Le 17 du mois dernier, j'étais dans l'attente du Seigneur, dans ma vie vous êtes apparu. Depuis lors, il a été lourd sur moi de faire quelque chose qui vous touche, et maintenant mes attirances vont vers cet endroit où je suis. Puisque vous êtes le prisonnier d'Oliver Cromwell, le dirigeant de l'Angleterre, il m'est maintenant demandé de lui offrir mon corps pour votre corps en prison, et je suis prêt à le faire même si cela devait conduire à mon sang. Si vous recevez mon offre dans cette lettre, veillez à ce que cette offre demeure dans la sagesse, et faites-moi parvenir le total de vos souffrances injustes et de l'amende pécuniaire, afin que je le présente devant lui, de sorte qu'il n'ait aucune excuse, et que je sois dégagé de ce qui m'est requis. Vous êtes cher et choisi, donnez-moi de vos nouvelles, car je vois le grand besoin que vous soyez libre. J'ai été l'un des premiers à être à Swarthmore, et dans ces réunions il y avait beaucoup d'orateurs et de prières, et un chant tel que je n'en ai jamais entendu, et de même l'illumination parmi eux que j'ai vue et ressentie. Je sens le besoin de déposer cela devant vous et James Naylor, vous deux étant suffisants pour ces choses ainsi que pour leur co, et la divergence aille au sujet de Kendall. L'absence de votre manifestation envers Israël pèse sur moi. Jusqu'à ce que je reçoive de vos nouvelles, moi qui, par des paroles sans feinte, suis prêt à déposer ma vie pour ce dont je, Humphrey Norton, dans la volonté du Père et par sa puissance, suis prêt à faire ce qui est susmentionné. Londres, ce 4 du 2 mois, 1656 du journal de George Fox, parlant des persécutions sous Cromwell, or c'était un temps de grande souffrance, et beaucoup d'amis étant en prison, beaucoup d'autres amis furent poussés à aller au Parlement pour s'offrir à demeurer dans les mêmes prisons où leurs amis étaient détenus, afin que ceux qui étaient en prison puissent sortir et ne pas périr dans les geôles puantes. Nous fîmes cela par amour pour Dieu et pour nos frères, afin qu'ils ne meurent pas en prison, et par amour pour ceux qui les y jetaient, afin qu'ils ne fassent pas retomber du sang innocent sur leur propre tête, ce que nous savions crierait au Seigneur et attirerait sur eux sa colère, sa vengeance et ses fléaux. Lettre à Margaret Fell de Richard Farnsworth. La lettre suivante, adressée à Margaret Fell par Richard Farnsworth, quelques mois seulement après sa conversion, peut servir à montrer l'amour et l'intérêt continu qu'il prit à son établissement dans la vérité. Balby, Yorkshire, 12 mois, 1652. Chère sœur, veillez à demeurer dans le conseil du Seigneur, qui abattra tout ce qui voudrait s'élever, et ne vous laissera vous conformer à rien d'autre qu'à ce qui est pur. Oh, soyez fidèle à ce que vous connaissez, et tenez-vous parfaite dans la volonté du Seigneur, et le Seigneur vous gardera, dans sa propre puissance pour lui-même, et vous armera de toute manière de son amour et de sa puissance. Tenez-vous dans son conseil, et il découvrira toutes les délibérations de l'ennemi, et il dispersera toutes les imaginations, et ne leur permettra pas de prendre place en vous, pourvu que vous lui obéissiez. N'aimez pas le monde, mais ayez à cœur ce qui vous attirait à vivre dans la pure obéissance à celui qui est pur, et en demeurant dans la crainte pure, elle ôtera toute crainte servile, et ne vous permettra pas de vous conformer au monde en quoi que ce soit, mais vous serez préservés dans l'obéissance au Seigneur en ce qu'il exige, car la crainte du Seigneur garde le cœur pur, et elle vous gardera pur, et ouverte à recevoir les enseignements du Père. Tenez ferme dans la liberté par laquelle Christ vous a affranchi, et elle vous préservera des enchevêtrements du monde, dont la fin est votre préservation, en demeurant dans le conseil du Seigneur, qui est le conseiller puissant, le prince de paix éternelle, qui vous conduira et vous guidera dans le royaume éternel du Père, où il y a paix et joie, repos, tranquillité et assurance pour toujours. Abandonnez-vous entièrement au Seigneur, qui vous préservera dans la fidélité et la pureté, et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant éternel vous garde, vous et tous nos chers amis, dans la puissance de son amour et dans la puissance de sa vérité, parfait dans sa volonté, afin que vous croissiez de force en force, et que vous soyez établis dans la vérité éternelle, et que lui seul soit glorifié, lui qui est Seigneur des seigneurs et roi des rois, à qui soit gloire, honneur, louange et remerciement pour les siècles des siècles. Amen. J'ai reçu votre lettre qui m'a beaucoup réjoui. Lorsque votre lettre, portée par James et George, est arrivée, j'étais alors parti vers le Derbyshire, où j'ai rencontré une église rassemblée. J'ai été très occupé au service depuis que je vous ai quitté. Les amis sont très enhardis et courageux, bien qu'ils aient eu ici une grande opposition et persécution, mais tout est à l'arrêt, l'ennemi est grandement réduit au silence, et le Seigneur poursuit sa propre œuvre, grandement pour sa propre louange, à lui seul soit gloire et honneur pour les siècles des siècles. Mon cher amour dans le Seigneur se présente à vous tous, à votre fils Georges, à vos filles, et à tous vos serviteurs dans la vérité de Dieu, et que le Seigneur les fasse tous croître dans la vérité, afin qu'ils soient exaltés parmi vous tous. Tous mes chers cœurs, estimez l'amour et la miséricorde du Seigneur, et ayez chaque jour à cœur votre croissance en ce qui est éternel, et que l'amour et la puissance éternelle du Seigneur vous gardent tous dans la fidélité envers lui, selon ce que vous connaissez. Demeurez dans la croix, et la pureté croîtra. La voie la plus sûre est dans la croix, prenez la croix chaque jour, ayez à cœur d'être guidé par ce qui contrarie vos propres volontés, et cela amènera toute parole oiseuse, toute pensée et tout acte au jugement en vous. Et ainsi le vieil homme sera crucifié avec ses affections et ses convoitises, et vous trouverez le Seigneur assis comme un affineur pour juger et ôter tout le vieux levain, la vieille nature. Et ainsi l'homme nouveau sera relevé et Christ, la puissance de Dieu, régnera et gouvernera en justice en vous, lui qui est le roi. Amen. Richard Farnsworth de William Caton à Margaret Fell. Oh l'amour qui en ce jour abondait parmi nous, surtout dans cette famille, et oh la fraîcheur de la puissance du Seigneur Dieu, qui alors était parmi nous, et le zèle pour lui et sa vérité, le réconfort et le rafraîchissement que nous avions de sa présence, la proximité et la cherté qui étaient entre nous les uns envers les autres, les ouvertures et les révélations que nous avions alors, mon cœur est touché par leurs souvenirs encore aujourd'hui. William Canton, il écrit encore dans son journal, « Ma chère amie Margaret Fell, l'épouse du juge ayant remarqué mon état, ne voulut pas me laisser aller plus longtemps à l'école que je ne le désirais, mais me fit rester à la maison pour enseigner à ses enfants, et aller avec elle lorsqu'elle sortait, et écrire pour elle, ce fut un temps heureux pour moi. Après avoir quitté l'école, je fus beaucoup exercé à écrire des choses précieuses et salutaires concernant la vérité, ce qui me donna de bonnes occasions d'être en relation avec les amis, chez qui la vie de justice commençait à bourgeonner et à jaillir, et qui croissait dans l'amour et l'unité, ce dont mon âme fut extrêmement touchée, et je désirais très vivement être un avec en cela, afin d'y avoir part avec eux, car mon âme en était ravie, bien au-delà des plaisirs et des délices de ce monde transitoire. Oh l'amour qui en ce jour abondait parmi nous, surtout dans cette famille, et la fraîcheur de la puissance du Seigneur Dieu, qui alors était parmi nous, et le zèle pour lui et sa vérité, le réconfort et le rafraîchissement que nous avions de sa présence, la proximité et la cherté qui étaient entre nous les uns envers les autres, les ouvertures et les révélations que nous avions alors. J'avoue me trouver insuffisant pour déclarer ces choses jusqu'au bout, et je n'entends pas non plus maintenant entreprendre de les décrire en particulier. Car alors je pourrais faire un volume bien plus grand que celui que j'ai l'intention de faire à présent, mais mon cœur est touché par leurs souvenirs en ce jour. En ces jours-là, les réunions nous étaient d'une valeur inestimable, si bien que quelques-uns d'entre nous passaient ordinairement un certain temps chaque nuit à attendre le Seigneur, oui, souvent après que le reste de la famille était allé se coucher, et oh le réconfort et le rafraîchissement que nous avions ensemble, et le profit que nous en retirions, comment pourrais-je le dire ? Car si nous avions subi une perte durant la journée, lorsque nous avions été dehors pour nos affaires ou autres, alors nous venions, dans une grande mesure, à être ainsi restaurés de nouveau par l'amour, la puissance et la miséricorde de notre Dieu, qui abondait très largement envers nous. Éloge de Francis Haugel pour son ami tendrement aimé, Edward Burroughs. Lorsque son cher ami et compagnon prédicateur, Edward Burroughs, fut mort plus tôt dans la prison de Newgate, Francis Haugel donna alors le beau et puissant témoignage suivant, qui décrit aussi les propres accomplissements de Francis les jours, ou les mois, ou les années effaceraient-ils ton nom, comme si tu n'avais jamais existé. Au nom de tes actes nobles et vaillants, et les œuvres puissantes que tu as accomplies par la puissance de celui qui t'a séparé des leçons maternelles, ne vivront-ils pas dans les générations à venir ? Oh que oui, les enfants qui ne sont pas encore nés t'auront sur les lèvres, et tes œuvres rendront témoignage de toi, au sein de générations qui n'ont pas encore d'existence, et te diront bienheureux. Ta vie s'est-elle éteinte comme la mèche d'une chandelle? Oh non, tu as pénétré le cœur de beaucoup, et la mémoire du juste vivra à jamais, et elle sera en renom parmi les enfants des hommes pour toujours. Car tu en as ramené beaucoup à la justice, et tu brilles comme une étoile de Dieu dans le firmament de la puissance de Dieu, au siècle des siècles, et ceux qui s'y trouvent te verront là, et t'y goûteront, quoique tu sois parti d'ici et qu'on ne puisse plus te voir dans la mutabilité, pourtant ta vie et ton esprit courront parallèlement à l'immortalité. Oh Edward Burroughs! Je ne puis que te pleurer, mais non comme quelqu'un sans espérance ni foi, sachant et portant dans mon cœur un témoignage parfait de ton bien-être, par l'Esprit du Seigneur, néanmoins, ton absence est grande, et les années à venir connaîtront le manque de toi. Ne lamenterai-je pas, comme David le fit pour un homme pire que toi, pour Abné, qui dans la colère périt par la main de Joab sans juste cause, bien qu'il fût un vaillant homme, David se lamenta sur Abné et dit, « Abné est-il mort comme meurt un insensé ? Oh non, il fut trahi de sa vie. Ainsi as-tu été privé de ta vie par la main de l'oppresseur, dont les demeures sont pleines de cruauté. Ô mon âme, n'entre point dans leur secret, car ton sang sera redemandé des mains de ceux qui avaient soif de ta vie, et il criera comme celui d'Abel, qui était dans la foi, ainsi étais-tu, il pèsera comme une lourde meule sur leur cou, et les écrasera, il sera comme un ver qui ronge et ne meurt pas. Quand je pense à toi, je fonds en larmes d'une vraie douleur, et à cause du manque que l'héritage du Seigneur a de toi, ma substance même semble se dissoudre. Ne dirais-je pas comme David de Saül et Jonathan, lorsqu'ils furent tués sur le mont Gilboa, la beauté d'Israël est tombée sur les hauteurs, ainsi as-tu été étouffé dans de sales trous et des prisons, ainsi que beaucoup d'autres, précieux aux yeux du Seigneur. Et assurément tu m'étais précieux, ô cher Edward, je suis dans l'angoisse pour toi, mon frère, tu m'as été très cher, et mon amour pour toi était merveilleux, surpassant l'amour des femmes, ô toi dont l'arc ne se retirait jamais, ni l'épée ne revenait vide du sang des tués, du carnat. Tu étais terrible aux ennemis du Seigneur, car tu tranchais comme un rasoir. Et pourtant, pour la semence de Dieu mise au jour, tes paroles tombaient comme de l'huile, et tes lèvres comme un rayon de miel. Tu seras inscrit parmi les vaillants d'Israël, qui, par la puissance du Seigneur, atteignirent au premier degré, lui qui opéra puissamment en toi en ton temps, et furent dignes d'un double honneur à cause de leurs œuvres. Tu étais habile à manier ton arme, et par toi les puissants sont tombés, et les tués du Seigneur ont été nombreux. Beaucoup ont eu le cœur transpercé par la puissance de la parole de vie, et des charbons ardents de ta vie sortaient de ta bouche, si bien que, dans mains fourrées, et parmi mains troncs et épines, ils s'allumèrent et dévorèrent beaucoup de chaumes qui encombraient le sol et souillaient la terre, auxquels sont certains donnaient ta trompette. Et quel grand réveil as-tu sonné en ton jour, qui mit en grande détresse l'armée des incirconcis? Quel homme si vaillant, fut-il comme Goliath de Gath, que ton courage n'aurait affronté, tandis que beaucoup méprisaient ta jeunesse, et combien de fois t'ai-je vu, avec ta fronde et ta pierre, armes méprisées pour faire la guerre, blesser les puissants. Et ce qui avait paru méprisable aux parties du dragon, comme une mâchoire d'âne, par cela tu as abattu les Philistins, t'assurta comme Samson. Tu as mis la main au marteau du Seigneur, et tu as souvent enfoncé des clous dans la tête des ennemis de l'agneau, comme Jaël le fit à Sisra, et maintes pierres grossières as-tu polies et équarries, et rendues propres aux édifices de Dieu, et beaucoup de bois noueux as-tu taillé en ton jour, qui n'était pas propre à la construction de la maison de Dieu. Ô prophète du Seigneur, tu seras à jamais inscrit dans le livre de vie de l'agneau, parmi les dignes du Seigneur, qui ont suivi l'agneau au travers de grandes tribulations, comme beaucoup peuvent en témoigner pour toi dès le commencement, et qui à la fin ont vaincu et ont été trouvés dignes de se tenir avec l'agneau sur le mont Sion, la montagne de Dieu. Comme je t'ai souvent vu, le cœur bien accordé comme une harpe, pour louer le Seigneur et faire retentir son grand salut, ce qui, bien des fois, a réjoui le cœur de ceux qui croient. Eh bien, tu es en repos, et enveloppé dans le faisceau de la vie. Et je sais que les larmes ont été essuyées de tes yeux, parce qu'il n'y avait en toi aucune cause de tristesse. Car nous savons que tu as rendu témoignage de l'abolition des choses anciennes, et qu'il n'y avait plus de malédiction, mais des bénédictions furent répandues sur ta tête comme la pluie, et la paix comme une averse puissante, et le trouble était loin de ta demeure, bien que dans l'homme extérieur, tu aies connu le trouble de toutes parts et que tu aies une part plus grande. Eh bien, avais-tu plus à abandonner que ta vie pour le nom de Jésus en ce monde? Non, et scellé de ton sang le témoignage qui t'a été confié, comme tu l'as souvent dit en ton jour, voilà qui demeurera comme une couronne sur toi au siècle des siècles. Maintenant tu es délivré des tentations de celui qui avait la puissance de la mort, et de tes ennemis extérieurs, qui te haïssaient à cause de l'amour qui habitait en toi, et tu demeures à la droite de Dieu, où il y a joie et délices pour toujours dans la lumière éternelle. Lumière dont tu as souvent rendu témoignage, selon la parole de prophétie dans ton cœur, qui t'a été donnée par le Saint-Esprit, et tu es en repos dans sa perfection dans la beauté de la sainteté, pourtant je sens ta vie et ton esprit comme présent, et je suis. Par ces expressions sublimes, Francis Raugel pleura son ami très aimé Edward Burroughs. Des sections de ce site sont consacrées à la fois à Francis Raugel et à Edward Burroughs. Voir la lettre de Francis Raugel, pleine de conseils affectueux, à sa jeune fille, Alors qu'il voyait sa vie décliner durant les dernières années de son emprisonnement à vie pour avoir refusé de prêter serment. Lettre de William Penn à Stephen Crisp, un autre Quake. Au moment où Penn mit les voiles pour la Pennsylvanie pour la première fois, cher Stephen, nous nous connaissons. Je n'ai pas besoin de te dire grand-chose, mais je dirai ceci, ton départ demeure avec moi, ou plutôt ton amour au moment de mon départ. Combien innocent, combien tendre, combien semblable au petit enfant sans ruse. Le Seigneur bénira ce sol, Philadelphie. J'ai aussi reçu de toi une lettre qui m'a réconforté, car nombreuses sont mes épreuves, mais pas plus que les secours que je reçois de mon Père Céleste, dont je cherche la gloire, et assurément, Stephen, il y a assez d'ouvrages à faire, et de la place pour travailler. Assurément Dieu prendra part à cette œuvre de plantation, et ce levain fera lever la pâte en son temps. Je ne crois pas que la providence du Seigneur ait conduit les choses ainsi vers moi, si ce n'est qu'il y a une fin et un service céleste. Ainsi avec lui je laisse tout, moi-même, toi et son peuple bien-aimé. William Penn voir la merveilleuse lettre d'amour et de grande sagesse que William Penn écrivit à sa femme et à sa famille, au moment où il partait pour la première fois en Pennsylvanie. Lettre à John Banks de John Bunyan, Dublin, le 19 du 6e mois, 1685. Cher John Banks, à toi avec tes compagnons de captivité, qui souffrez pour le bienheureux témoignage de cette précieuse vérité dans laquelle nous avons cru, l'affection véritable et tendre, et l'amour de mon cœur et de mon âme s'épanchent en ce moment, et dans la douceur et la paix de ce qui est notre vie, je te salue affectueusement, et dans son unité, je vous adresse à tous une tendre salutation, à vous dont les cœurs sont gardés en elle, et sous sa sainte conduite, pour laquelle vous souffrez. C'est en cela que nous avons notre unité, qui en elle-même, vit et règne sur toutes choses, et régnera dans sa propre domination et dignité pure, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui principauté, trône et domination doivent être soumis. C'est pour son témoignage, tu le sais, que vous souffrez pour le témoignage de Jésus, que vous avez reçu de lui par son esprit, et qui, par là, est scellé dans vos cœurs. Bien que beaucoup ne comprennent pas le poids et la certitude de votre témoignage, pour lequel vous souffrez, et puissent donc le considérer à la légère, pourtant, vous qui jouissez de la puissance et avez reçu l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, et donc son témoignage en lui, vous en sentez le poids, vous connaissez la certitude du témoignage pour lequel vous souffrez, et ainsi, dans vos souffrances, vous avez votre paix et votre justification. Mes bien-aimés dans le Seigneur, veillez à tenir fermement dans vos cœurs, dans la riche possession de cela pourquoi vous souffrez, afin de sentir votre récompense avec vous, et votre consolateur en vous, pour soutenir vos esprits au-dessus de toutes vos souffrances, et ainsi vous aurez en vous-même une satisfaction, quoi que d'autres disent ou puissent penser de vos souffrances et de la raison qui les motive, vous savez que c'est pour la vérité et son témoignage que vous souffrez, et pour garder votre conscience pure devant Dieu. Ainsi, dans l'homme caché du cœur, vous demeurez dans le calme, dans cette vie cachée que vous recevez de Christ, et voici votre paix et votre consolation, que nul ne peut vous enlever, nul ne la connaît, sinon ceux qui sont en communion avec vous, qui vivent dans le même témoignage et l'aiment. Ceux qui ne connaissent pas votre récompense, votre couronne ou votre paix, ne peuvent les atteindre pour vous les ôter. Et c'est notre joie, nous avons une couronne et un héritage qui échappent à leur vue, et donc à leur portée. Oh, que tous prennent donc garde qu'à travers la négligence, ou le relâchement d'esprit, ou toute autre chose, vous ne soyez pas séduits ou trahis, jusqu'à le perdre, alors même que vous souffrez pour lui. Vous le savez, mes amis, c'est possible, de telles choses sont arrivées même de notre temps, tandis que certains souffraient pour la vérité, ils ont été détournés de la vérité, ainsi que de l'innocence et de la simplicité qui étaient dans leur cœur. Et ainsi ils ont perdu la vérité, celle même pour laquelle ils avaient été appelés à souffrir. Car vous savez que c'est une chose intérieure, et qu'elle doit être gardée dans l'unité intérieure de l'esprit, dans une communion spirituelle, et s'il n'y a pas de vigilance même tandis que, extérieurement, nous faisons quelque chose pour la vérité, intérieurement nous pouvons la perdre, et perdre notre justification par elle, et alors, où irons-nous chercher notre paix et notre récompense? Que le Dieu de ma vie vous donne à tous sagesse et crainte, et vous remplissent d'une sainte révérence, afin que vous demeuriez dans la crainte respectueuse devant lui, et veillez sur votre chemin spirituel, sur les pieds de vos âmes et de vos esprits, afin de marcher dans la voie invisible de paix et de justice. Et chers amis, vivez entre vous dans la paix et l'amour, et dans une vie sainte et solide devant tous les hommes, en vous gardant en toutes choses de l'esprit du monde, afin que, puisque c'est pour une cause religieuse que vous souffrez, vous paraissiez en toutes autres choses être des hommes religieux. Autrement, vous le savez, la vérité ne peut être honorée par vos souffrances. Car si des hommes qui souffrent pour la religion, ou à cause de la religion, ne paraissent pas être des hommes religieux, cela renverse la gloire et la beauté de leur religion, et la rend méprisable aux yeux des hommes. C'est pourquoi Christ a commandé que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Prenez garde aussi de vous provoquer les uns les autres à faire le mal, mais efforcez-vous de vous stimuler et de vous provoquer les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, afin de vous édifier mutuellement en cela, et ainsi vous aider à porter les fardeaux les uns des autres, et à accomplir la loi de Christ, afin que vous soyez tous gardés ensemble dans la justification et la paix. Ainsi, chers amis, l'amour de mon cœur étant pour vous, j'envoie ces quelques lignes comme témoignage, par lesquelles vous pourrez savoir que vous êtes présents à mon souvenir dans l'amour de Dieu, et que mon cœur a une honorable estime pour votre témoignage et vos souffrances en justice pour ce même témoignage. Je désire que l'on se souvienne de moi auprès des amis de la campagne, tant au-dessous de Carlisle qu'au-dessus, et auprès des amis de la ville, auprès de John Carlisle et de sa famille, avec les autres. L'affection de ma femme vous est acquise à tous. Mon amour est avec vous. Adieu. De votre ami, John Bunyit, lettre de George Fox à toutes les assemblées Quakers du monde, chers amis pleins de tendresse. Mon amour est pour vous tous dans la vérité de Dieu, et mes prières et le désir de mon âme s'adressent à Dieu, afin que vous soyez gardés dans la simplicité de la vérité en Christ Jésus, croissant dans la puissance de sa résurrection, et rendus conformes à sa mort, et ayant communion avec lui dans ses souffrances, et que tous vos cœurs soient unis en amour, et en un même esprit vers Dieu, et gardés hors de toutes les mauvaises coutumes, mots, paroles, œuvres, manières, ordonnances et commandements du monde, qui tous périront que le monde soutient. Car tout ce qui est vu par un œil charnel est charnel. Voyez si vous trouvez, dans vos intelligences, quelque chose qui soit manifesté, qui soit éternel, pour guider vos esprits hors de toutes les choses extérieures, qui se flétrissent et passent. Car la croix s'oppose à l'esprit charnel. Lorsque vos esprits charnels s'attachent aux choses charnelles et terrestres, ou que vos yeux et vos convoitises se portent vers la terre, où sont la légèreté, la précipitation, la contrariété, l'amertume et la présomption, alors la langue court au hasard et se délie, et celui qui n'a pas pouvoir sur sa propre langue, sa religion est vaine, et l'esprit léger domine. Mais la lumière intérieure, qui vous convainc, vous montrera quand l'esprit s'égare, et elle vous montrera la croix quotidienne, qui sert à crucifier cet esprit charnel, car l'esprit charnel s'attache aux choses charnelles, et la croix s'oppose à la volonté de l'homme, car elle n'entrera jamais. Ne laissez donc pas libre cours à vos volontés, et ne vous occupez pas, vous, vos pensées de paroles inutiles et inconsidérées ou de choses semblables, car elles vous voileront et détourneront vos esprits de Dieu. Mais demeurez au-dedans. Et quand ils diront « Voici ici » ou « Voici, là est Christ », ne sortez pas, car Christ est en vous. Et ce sont des séducteurs et des antéchrists qui tirent vos esprits loin de l'enseignement intérieur. Car la mesure est au-dedans, et la lumière de Dieu est au-dedans, et la perle est au-dedans de vous, cachée, et la parole de Dieu est au-dedans de vous, et vous êtes les temples de Dieu. Et Dieu a dit qu'il demeurerait en vous et marcherait en vous. Alors, qu'avez-vous besoin d'aller au temple des idoles au dehors? La véritable Église, les saints, est en Dieu, mais l'imitation de l'Église est dans le monde, hors de Dieu. Les séducteurs sont dans le monde, les antéchrists et les trompeurs sont dans le monde, les faux prophètes sont dans le monde, la convoitise est dans le monde, toute hypocrisie, toute hérésie, toute dissimulation, tout orgueil, et la recherche des honneurs sont dans le monde, et celui qui les recherche est du diable. Et toutes les plaisanteries oiseuses et insensées, et tous les propos légers et vains, qui ne sont ni décents ni convenables, sont dans le monde. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout excès de méchanceté, craignez Dieu, rendez-lui gloire, et n'adorez pas la bête, car la bête et le faux prophète doivent être jetés dans les temps de feu. Les véritables figures et types étaient extérieurs et visibles à l'œil et à l'esprit extérieur, mais l'esprit charnel doit être ôté et détruit. Car les figures annonçaient la substance, lorsque la substance est venue, les figures ont été ôtées, et les types ont pris fin. Et les fausses imitations de Christ et de Dieu sont dans le monde, et les cultes vains du monde sont des cultes rendus à la bête et ne sont pas de Dieu. Car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La nature bestiale chez l'homme et la femme soutient la bête, ainsi que ses coutumes et ses cultes, et les plaies de Dieu doivent être répandues sur la bête et sur tous ceux qui adorent la bête et le faux prophète. Et ceux qui demeurent dans la vérité n'adorent pas la bête, ni intérieurement ni extérieurement, mais renient tous les cultes de la bête et ceux des faux prophètes, et adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais ceux qui ne demeurent pas dans la vérité soutiennent le culte de la bête et les faux prophètes, et ceux qui le font auront leur part avec eux. Des plaies seront répandues sur de tels. Et vous qui connaissez Dieu, demeurez dans la vérité et foulez aux pieds la tromperie, car Dieu seul sera glorifié. À lui soit la gloire et l'honneur à jamais. Amen. George Fox, lettre de Henry Fell, sans lien de parenté à Margaret Fox. Chère Margaret Fox, mon amie très chère et bien-aimée dans le Seigneur, que j'aime et que j'honore. J'ai reçu venant de Swarthmore ta lettre du 8 jour du 1er mois 1672, qui m'a été très bienvenue, et dont le conseil intérieur m'a été fort opportun, comme le conseil d'une mère tendre à son enfant. Je ne pouvais que recevoir et louer ce conseil comme venant d'une source d'amour, que le Seigneur a ouverte dans ton cœur. Je sens ta tendre sollicitude, que je sais avoir été dirigée vers mon bien-être et ma préservation, depuis que j'ai été convaincue pour la première fois de la bienheureuse vérité du Seigneur. Si j'avais persévéré et gardé la fidélité dans la vérité, j'aurais pu en quelque mesure te rendre amour et soin envers moi, ce qui aurait été une joie et une consolation pour nous deux, et non la peine et la tristesse qui ont été. Cependant, ta récompense est auprès du Seigneur, qui, je le crois, récompense et récompensera ton travail et ton amour dans ton propre sein. Cher ami, l'affection qui est la mienne en ce moment va vers toi, dans la mesure qui m'est donnée de la vérité et de la lumière éternelle de Christ Jésus, qui est l'alliance bénie que le Seigneur a faite avec tous les peuples, juifs ou gentils, esclaves ou libres. Tous doivent venir à la lumière, en laquelle tous doivent marcher, sinon ils ne peuvent connaître le Seigneur ni avoir communion avec lui, ni communion avec ses saints dans l'esprit. Le sang de ton alliance éternelle ne peut non plus être connu ni attesté, lui qui lave et purifie de tout péché et de toute injustice. Mais à mesure que cette lumière est soumise, obéie et suivie, ainsi que le prophète d'autrefois en a témoigné en disant « Toutes les nations de ceux qui sont sauvés doivent marcher dans sa lumière. Et elle est semée pour que les justes y marchent, elle est le sentier du juste où les méchants, les injustes et les non-justes ne peuvent marcher ni n'ont jamais marché, et ainsi ils sont exclus de Dieu, auprès de qui n'habite aucune iniquité, et dont l'ouvrier d'iniquité est exclu pour toujours. » Béni soit le nom du Seigneur, qui a de nouveau ouvert un œil en moi. Dans son infinie miséricorde et sa bonté, il m'a fait voir en grande mesure ma chute et ma perte, et non seulement ma chute, mais aussi le chemin pour en sortir, afin de revenir à lui-même. Il m'a conduit en mesure dans ce chemin, et dans le combat spirituel contre ce qui m'avait séparé de Dieu. Il m'a amené à l'attendre, dans la voie de ses jugements. Mon espérance est qu'il sera conduit à la victoire, et que la captivité sera renversée, que ce qui m'a conduit en captivité soit jamais conduit captif par la puissance de la semence bénie, qui était la promesse ancienne d'écraser la tête du serpent, par Christ Jésus, à qui il appartient de régner sur toute chose pour toujours. Oh, je ne puis que me souvenir du grand et merveilleux amour de Dieu envers ma propre âme et envers beaucoup de pauvres âmes ici, sur cette île, en envoyant ses apôtres et ses serviteurs nous visiter, à savoir George Fox et ceux qui l'accompagnaient. Oh, ce fut pour nous une visitation d'amour béni, allant jusqu'à relever mon âme hors de la mort, elle qui était morte dans les péchés et les offenses, mais qui maintenant est de nouveau vivifiée par la puissance de l'Évangile éternel, par lequel les aveugles voient, les sourds entendent, et les morts sont ressuscités, comme Lazare hors du tombeau. Ainsi mon âme a grande raison de louer et d'exalter le nom du Seigneur, en leur faveur Fox et ses associés, dont le travail d'amour le Seigneur a récompensé et récompensera à jamais. Ainsi, cher ami, je désire avoir souvent de tes nouvelles, lorsque tu en as la liberté et l'occasion, car je suis heureux d'avoir de tes nouvelles en tout temps. Ainsi, dans la mesure qui m'est donnée de la vérité bénie, mon amour te salue et te dit adieu, tandis que je demeure ton ami, comme je suis gardé dans ce qui est un ami pour mon âme. N. Fell, écrite en 1654 depuis la Barbade, à la conclusion de la visite de George Fox sur l'île. Ceci n'est qu'un petit échantillon des merveilleuses lettres d'amour échangées entre Quakers. Pour en lire davantage, voir les lettres historiques des premiers Quakers. Le but de ce site web est de montrer comment être délivré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.